каалабаган мал да буларчы. Бул азыр чыкса бул кырга жатат.
Le yak est un animal qui n'aime pas beaucoup la chaleur. Ils préfèrent plutôt le frais parce que ils ont leur poil qui doit avoir une propriété qui leur donne du chaleur.
Ah, le poil
voilà,
est très
voilà,
chaud.
Voilà.
Ils ont la graisse aussi beaucoup.
Et si c'était des vaches, ils seraient déjà morts du froid.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver au Kirghizistan. Kirghizistan, paradis des yaks, on vient de l'entendre, paradis des chevaux. On l'a vu hier avec notre invité Bernard Repon, paradis également des randonneurs, des amateurs de trek, de tous ceux qui cherchent à s'offrir un bain d'authenticité nomade et de retour à la nature, yourte et les cahiers inclus. D'où le développement aujourd'hui au Kirghizistan d'un tourisme qu'on appelle vert ou encore doux et durable, respectueux de l'environnement et des modes de vie traditionnels et qui représente pour les Kirghizes une vraie alternative économique à l'élevage, une manière de valoriser autrement les immenses espaces vierges de leur pays. En seconde partie d'émission, nous serons par téléphone avec Joanne Pabian. Elle est anthropologue, elle vient de passer 6 mois au Kirghizistan pour préparer sa thèse consacrée à l'écotourisme. Elle nous racontera comment ce tourisme vert modifie quand même ce qu'il cherche à garder intact, comment aussi par exemple on donne quasi des cours aujourd'hui, des cours d'authenticité aux guides kirghizes pour qu'ils puissent combler au mieux la soif de naturel des touristes occidentaux. Joanne Pabian, ce sera dans quelques minutes après le 4e feuillet de votre carnet de route, Mathilde Gohanek et Camille Magnard, toujours dans cette vallée d'Aksaï, dans le sud du Kirghizistan où nous étions hier. Nous redonner peut-être quelques images de cette région.
Cette vallée d'Aksaï, elle s'appelle vallée, mais c'est plutôt un grand plateau d'altitude coincé entre deux chaînes de montagnes autour de 4000-5000 mètres, donc sommet enneigé. Et donc c'est un grand plateau de steppe, seulement de l'herbe et des rochers. Pas un seul arbre à l'horizon puisqu'on est beaucoup trop haut, et puis une herbe qui est rase puisque des armées de moutons y déferlent hiver comme été pour paître ici. Donc vraiment quelque chose d'assez désert, c'est la steppe comme on l'imagine.
Comme on peut en avoir des images, on est de nouveau près de ce centre culturel et toujours avec votre guide.
Oui, on est toujours avec Nour Ali qui nous accompagne dans l'aventure d'Aksaï et qui est lui-même un enfant du pays.
Nour Ali, il y a un peu d'agitation devant la maison parce que pendant la nuit, un camion est arrivé du village, de la vallée, pour amener du ravitaillement. Là, on est en train de décharger tout ça. C'est quoi essentiellement le ravitaillement, tout ce qu'on a ramené?
Ils ont ramené de la farine. Et puis, je vois quelques boîtes de vodka, quelques boîtes de bière. Et puis, la femme qui s'occupe de ça, elle a dit qu'elle avait ramené aussi des bonbons, des biscuits pour les enfants. Voilà.
De quoi ravitailler la boutique du centre culturel. On voit quand même qu'il y a une certaines proportions de vodka, assez impossible. Pour survivre ici, c'est farine et vodka.
Ça réchauffe, ça... Ouais,
ça les calme, puis je crois. Rester tout le temps ici et avoir tout le temps du froid, c'est insupportable quand même. Alors, de temps en temps, prendre du vodka et s'amuser un peu, ça leur gêne pas.
Aurélie, dis-nous un peu là, on vient de repartir, ce matin on était chez Aïbek et puis on est passé chez notre ami Larat, chez qui nous étions hier, nous avons récupéré la petite famille et puis là nous nous dirigeons vers notre hôte du jour.
C'est Monsieur Tournale.
Monsieur Tournale qui nous a invités chez lui, qui a invité presque tous les éleveurs que nous avons rencontrés pour le moment, pour aller manger chez lui aujourd'hui, et il a décidé de tuer un mouton en notre honneur, pour notre venue. Donc la fête continue, hier c'était la fête de la femme, mais aujourd'hui je crois qu'on va encore continuer à faire la fête. Donc là on est dans la voiture de hockey, toujours notre 4x4, et nous avons à côté de moi le mouton, la star du jour, qui se débat un petit peu dans le coffre de la Jeep, qui secoue un peu. Donc voilà le mouton, et puis les femmes sont devant, Mathilde sur les genoux de la femme de Tournale.
On m'a dit qu'il pouvait être 14 dans la voiture, alors qu'ici c'est le grand gonfle, parce qu'on est que 7.
7 plus un mouton. Plus les enfants aussi. Les enfants sont devant. Et voilà qu'approche la bergerie. Voilà, ça y est, on arrive chez Tournale et sa femme. Bon, alors avant ça, il aura fallu bien sûr continuer les longs kilomètres sur les pistes, traverser une nouvelle vallée magnifique bordée de rochers. Acéré, c'est assez époustouflant ce qu'on voit ici. Puis voilà, on arrive dans la cour de la ferme qui est composée de plusieurs petits bâtiments. Le moteur s'arrête et on va essayer de descendre. Ça va pas être évident. Donc, je suis coincé entre un mouton et une roue de secours. Voilà, les femmes d'abord, les enfants, tout le monde descend.
Donc la maison est au bord d'un presque lac gelé. La maison, plutôt les 3-4 petites maisons, elles aussi assez délabrées. On va voir comment c'est à l'intérieur.
Alors voilà, maintenant à l'intérieur on y est. On est entré dans la petite pièce qui est la cuisine de la maison de Tournale. On a retiré nos chaussures à l'entrée, bien sûr. Et ça n'a pas été très facile parce que cette maison dans laquelle on vient d'entrer est très froide. Et forcément, puisque Tournale et sa femme étaient avec nous hier encore dans la maison de Marat, où on faisait la fête pour la fête de la femme, donc personne n'est resté pour s'occuper du poil. Et on le sent bien là, il fait très froid, on a gardé nos anoraks, et c'est vrai que se promener en chaussettes n'est pas forcément idéal.
Alors on commence un peu à s'activer dans la cuisine, on est à peine rentré que déjà la femme de Tournale et Kiris, la femme de la rate, sont déjà en train de préparer le repas du soir, le pishbarmak. Donc je vais essayer moi de les aider puisque ce sont les femmes qui font la cuisine. Mais comme je suis une invitée, c'est pas sûr que ça passe, peut-être qu'on va me renvoyer dans mon coin avec les hommes. En tout cas, je m'approche de la table où elles sont en train de préparer une jolie tresse d'intestin. On va voir ce que ça va donner. Et je crois que l'intrusion d'une étrangère dans la cuisine fait beaucoup rire les enfants qui regardent notre manège, l'air franchement amusé. Ils s'approchent, ils essayent d'attraper le micro. En tout cas, on fait le spectacle autant que nous font rire.
La pièce où on se trouve ressemble pas mal à celle qu'on a laissée chez la rate hier. C'est une pièce très simple, très dépouillée, où il y a très peu de meubles. Les femmes se sont mises au travail, comme disait Mathilde, à par terre. Il y a juste quelques planches et couteaux pour découper les petits morceaux de viande qui serviront au bishbarmak. Et puis dans l'autre pièce, ben là, il y a deux placards où sont rangées les maigres affaires de la famille, qui sont transportées l'été dans la yourte. Et puis une petite table autour de laquelle se sont installés illico les hommes qui sont en train de discuter en attendant le thé chaud. Donc on va aller les rejoindre avec nos rallyes.
John, Saugan Mechrame, Baharadusme, Dohrame.
Misal için ayakta uççede iyilikçiler kışta atıyor.
Donc dans l'Union soviétique, l'élevage a été bien développé. Donc il y avait beaucoup de bêtes, il y avait beaucoup de moutons. Du coup, il n'y avait pas assez de pâturage pour les bêtes dans la vallée d'Arsay. Donc on était obligé de partir dans d'autres vallées.
Est-ce qu'il dirait que la vie était meilleure à l'époque de l'Union soviétique pour les éleveurs?
Мына магазин бар болчу, гүл центрде. Больница бар болчу, автоловка келип турчу, тейлеп, ун чайын, бүт неме болчу. Анан асыр болса кыштыктан алып чыгасы продуктынычы. Эми мындай ойлоп көрсөкчү, сапкостон атпаштан,
атпаштан. Эми бишкекке күнүм барып, күнүмдөн эле. Кондиция тейми. parce qu'il y avait tous les services, les magasins, les hôpitaux, tout ce qu'on avait besoin maintenant. Tandis que maintenant, il n'y a rien. Donc, à l'époque, pour acheter de nourriture, on devait aller au centre culturel qui est à côté de nous. Et ce n'était pas un problème pour nous. Maintenant, c'est un problème d'aller acheter des produits. Parce que pour acheter des choses, il faut aller dans la région d'Atbash. Et ça nous prend une journée. Et ce n'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation ici. Donc, il faut attendre. Donc, du coup, on fait deux fois par an un stock de produits. En automne et au printemps.
Nous sommes venus de Bishkek, qui est à peu près à 5 heures d'Atbashi. Ensuite, d'Atbashi, on a mis encore 5 à 6 heures pour venir jusqu'à la vallée d'Aksaï. On a l'impression que c'est très isolé, très sauvage. Quelles sont les joies, quels sont les plaisirs que l'on peut trouver dans une vallée comme ça?
Le fait d'être installé ici nous permet de nourrir nos enfants. Ça nous donne des revenus pour les nourrir. Bien sûr, on pourrait aller à Bishkek et faire du commerce, mais on n'est pas toujours sûr de réussir. Donc, tandis que là, on est sûr de réussir notre vie.
Est-ce que ce n'est pas trop difficile de trouver une femme qui veut bien vivre dans la vallée d'Aksaï ?
Nous sommes mariés déjà, donc avant de venir ici, on a beaucoup discuté en disant qu'il faut améliorer notre vie, qu'il faut nourrir nos enfants, qu'il faut les élever. Et du coup, ma femme était d'accord de partir avec moi. Et si elle n'est pas d'accord, alors à quoi bon de vivre avec elle?
Proche de l'enclos des yaks, on retrouve ce vent froid et un peu glaçant qui souffle dans les vallées. C'est la maison là, en fait, qui est en fait une ancienne bergerie soviétique avec un grand bâtiment de béton abandonné. Il ne reste plus que la maison et quelques enclos. La maison est surplombée par deux grands pans de roches qui dénotent un peu sur la montagne aride. Voilà l'enclos, il doit y avoir une... Combien il y a de yaks ici? 100. 100? Ah, j'aurais dit moins, dis donc. Les bêtes s'écartent sur notre passage. Elle est un peu effrayée de voir du monde. Oula, Tourunali va nous montrer le plus beau d'entre eux, le plus grand. C'est vrai qu'il dénote un peu aussi par rapport aux autres. Les autres sont plutôt noirs, lui a une robe beige. Alors pourquoi il a voulu nous montrer celui-là?
C'est le yak qu'ils utilisent pour transporter quelque chose ou pour garder les yaks. C'est comme un cheval. Ils montent sur ce yak et puis voilà.
On peut même monter sur les yaks, c'est vraiment comme un cheval alors.
Ouais.
Pourquoi dit-on que les yaks aiment l'altitude? Ça a toujours été des animaux d'altitude?
Parce que le yak est un animal qui n'aime pas beaucoup la chaleur. Ils préfèrent plutôt le frais parce qu'ils ont leur poil qui doit avoir une propriété qui leur donne du chaleur.
Ah, le poil est très chaud.
Voilà.
Ils ont la graisse aussi beaucoup.
Si c'était des vaches, ils seraient déjà morts du froid. En plus, il escalade très facilement, il ne glisse jamais. Ce sont de bons grimpeurs, voilà.
On les lâche alors?
On va les lâcher? Maintenant? Je crois que c'est parti. La chatte est en train de les faire venir vers le début de l'enclos, et puis voilà. La porte n'est pas encore ouverte, mais elle va s'ouvrir. La poussière, de bouse séchée, tout ce paquet de yaks qui ne demandent qu'une chose, que de sortir. Et voilà, la porte s'ouvre. On passe les premiers et les bêtes vont suivre. Thank you.
Alors, avec nos chevaux, on est arrivé avec nos accompagnateurs jusqu'à un petit pic, jusqu'à un petit endroit où on voit un peu le haut de la vallée, on voit la bergerie et puis on voit aussi les montagnes autour. Alors qu'est-ce qu'il nous montrait par là-bas, la direction de
la... Moi, mon avou, tout le monde, j'ai... Kıtay var kalırsa çeker ya uçer. Bir cağı cahit, mal turat. Nar cağı Kıtay'a karab keset de. Tuğun nar kılıyor. Nar cağı. Bu tuğunun nar cağı atbaşı. Atbaşı'a karab keset.
Devant, on voit les montagnes neigées, et derrière ces montagnes, c'est déjà la Chine, c'est la frontière. Donc, devant, c'est le pâturage pour les bêtes. Par là, on voit aussi des montagnes enneigées. Et derrière ces montagnes enneigées, on peut atteindre Atbaşı, la région d'Atbaşı.
D'accord, donc nous, on vient de derrière ces montagnes-là. Mmh. Et puis, de l'autre côté, si on regarde par là-bas, c'est la Chine, alors ça y est, c'est la frontière.
Un cheval, ça fait 4 heures de trajet pour aller en Chine.
Et est-ce qu'ils y vont quelquefois, ou est-ce qu'ils vont vers la frontière?
C'est quand on va à la chasse, on va, mais on n'atteint pas la Chine, parce qu'il y a la frontière, c'est interdit.
Et les animaux, alors, ils s'arrêtent à la frontière?
Si on ne les garde pas, si on ne les surveille pas, ils peuvent passer la frontière. Alors, ils ne passent pas la frontière parce qu'on les garde, on les surveille.
Donc cette limite-là, cette montagne qui fait la différence entre le Kyrgyzstan et la Chine, c'est vraiment la fin d'un monde, et de l'autre côté, c'est un autre monde différent.
Une
grande différence à cause de cette limite et de montagne, parce que même il y a deux loups qui partent vers le Kyrgyzstan, et après deux loups des glaciers. Après, il y en a une autre partie qui part vers la Chine.
Même les loups respectent la frontière, c'est pas les mêmes loups en Chine.
Ouais.
Alors voilà, on est de retour dans notre voiture, toujours elle, qui nous emmène partout. Finalement, tout le monde est rentré à la bergerie et on retourne sur l'autre versant de la vallée, à la recherche de notre vieux, à la recherche de la mémoire de cette vallée. Alors on est toujours sur la route, toujours on vient de déboucher sur encore des nouvelles vallées et encore des nouveaux paysages magnifiques, en se rapprochant toujours donc dans la zone neutre, dans la zone interdite qui nous rapproche de la Chine, et on cherche la maison de l'ancêtre, de la maison du vieil homme qui doit nous recevoir maintenant. Alors tu me disais, Nourali, là je vois que Aïbek et Ok, notre chauffeur, ont le regard scruté sur l'horizon et cherche de loin la maison. En fait, ils ne sont jamais allés là-bas.
Tous les deux, ils ne connaissent pas du tout où ils vivent. Ils suivent la route d'après la description de monsieur Tournale.
C'est Turgunale chez qui on était tout à l'heure,
voilà.
Qui leur a expliqué.
Voilà, d'après son explication, ils suivent la route.
Ouais. Et quelle route? Quelle route?
Quelle belle route.
Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une route? En tout cas, je ne sais pas comment on peut décrire un itinéraire dans ce dédale de vallons.
Turgunale, il connaît beaucoup d'endroits, le nom de beaucoup d'endroits. Il disait... tourner à droite, à gauche, et il disait les noms des endroits dont je ne me rappelle plus le nom.
Là, sur notre droite, le paysage change un peu, une espèce de canyon à l'intérieur de la vallée, des grandes falaises de sable rouge, qui s'ouvrent dans le creux, dans le ventre de la vallée. On va longer ces falaises et continuer donc notre chemin, qu'on découvre chaque mètre, puisque personne ne sait exactement où on va, mais on y va.
Parce qu'on a honte. arrêter de l'appeler l'ancêtre, parce qu'ici on l'appelle le vieux.
Je vois un enclos en bouse. Un mur en bouse.
Qu'il aurait fait un enclos en bouse. On est au bout du bout du bout du bout de la vallée d'Aksaï. Comme quoi, une vallée, c'est pas plane. C'est composé de vallons. En tout cas au Kyrgyzstan. Alors la maison ressemble aux autres maisons. Assez sommaire. Avec une petite véranda de fortune devant. Il y a un petit enfant et la mère, je crois. On va descendre. Est-ce que d'abord il peut nous dire son nom, son âge et d'où il vient ?
J'ai 74 ans.
Il a 74 ans.
Ça fait
47 ans qu'il vécut l'hiver ici.
Qu'il vit l'hiver et l'été ?
Il descend un petit peu et après, sinon, l'hiver, il passe ici.
Alors, d'abord, est-ce qu'il peut nous présenter les personnes qui vivent avec lui ?
C'est le fils de son fils qui l'aide. C'est sa fille. L'autre aussi, c'est sa fille. Il vit aussi avec son fils et sa belle-fille. Donc sa belle-fille est partie dans le village. Elle est accouchée. Donc du coup, quand on est arrivé, ils attendaient son arrivée. Donc,
Elle vient d'accoucher. Il pensait que c'était peut-être elle qui arrivait du village.
Avec son fils.
Félicitations. C'est le combientième petit enfant ?
31e.
31e ? Ouais, c'est une grosse famille.
Ils ont 13
enfants. Et de ces 13 enfants, ils ont 31 petits enfants.
Il est venu ici avec ses parents ou il est venu tout seul quand il était adulte ?
En fait, il a perdu ses parents très jeune, étant enfant. Donc, il a vécu son enfance dans la vallée de Chui. Et ses parents sont restés là-bas. Et comme un de ses cousins s'est enfui en Chine, il n'avait pas le droit de passer la frontière. Donc du coup, il a eu beaucoup de problèmes afin de venir s'installer dans la vallée de Adbaché.
Pourquoi son cousin s'est enfui en Chine ?
Parce qu'il était contre l'Union soviétique. Voilà.
C'est un dissident de l'Union soviétique. Voilà. D'accord. Et donc il est arrivé ici il y a 47 ans. Comment était la vallée ? Comment était la vie il y a 47 ans ?
À l'époque, dans les années 60, la vie n'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, beaucoup de circulation. On commençait à se développer. Et notre kolkhoz était une des kolkhoz riches de la région.
Mais alors, c'était à quel kolkhoz qu'ils appartenaient
Donc,
le nom de leur kolkhoz, c'est Mgekchil.
Qu'est-ce que ça veut dire
Mgekchil, c'est travailleur.
Travailleur.
Voilà.
Le kolkhoz est travailleur.
Ouais.
Alors,
1954, à Moscou, il y avait une exposition agricole. Et leur kolkhoz, il était présenté comme un des riches kolkhozes de l'Union soviétique. Et ils avaient pas mal de revenus. Et c'est les ouvriers de son kolkhoz qui ont commencé à toucher de l'argent de l'État.
Donc la vie était plutôt bonne pendant l'Union soviétique.
Oui, ça commençait à améliorer la vie. Donc, il était éleveur de moutons. Comme il avait des succès, il était deux fois élu député du Kyrgyzstan. En fait.
C'est un homme politique alors. Est-ce que maintenant il se souvient de la fin de l'Union soviétique? Quels sont ses souvenirs de cette période-là?
Oui, ça a marché très bien avec l'Union soviétique. D'un seul coup, on a commencé à nous disperser, distribuer les bêtes. Du coup, les gens ont quitté la vallée et je suis resté tout seul ici.
Tout seul?
Bu yerde babuslerden açığında usup bekleyen başka ökoçlara kaldı kuşlar önden. Hani usup bekmenen kat gelendi karşı kuru cedi o da gendi bunu.
Dans cette vallée, alors il y avait lui et puis son voisin du Soupek qui sont restés. Alors les gens ont dit des ondes en disant que du Soupek et Krakelin sont mangés par les loups, du coup.
Parce qu'ils ne revenaient pas.
En plaisantant pas, parce qu'ils ne revenaient pas dans leur village.
Mais on a du mal à imaginer comment ils ont pu vivre cette période quand ils ont appris que l'URSS s'était effondré, qu'il n'y avait plus d'URSS alors que toute leur vie était organisée par l'URSS.
Ils n'ont pas eu beaucoup de changements avec la chute de l'Union soviétique parce que c'est leur fils qui s'occupait d'eau, qui faisait des ravitaillements deux fois par an. Et comme ça, ils n'ont pas senti les difficultés.
Et maintenant, alors, ils voient du monde tous les combien de temps? Ils sont ravitaillés tous les combien de temps? Comment ça se passe la vie maintenant?
Ils font leur ravitaillement une fois par an. C'est au mois d'octobre. Quand il ne fait pas encore froid, donc ils prennent des pommes de terre, la confiture, tout ça, et comme ça, ils vivent. C'est très dur d'être berger, alors c'est lui qui vaincre toutes ces difficultés à du bonheur.
Et pour terminer, il nous disait qu'après la chute de l'Union soviétique, tout le monde était parti. Aujourd'hui, on l'a vu, pas mal de gens qui reviennent, et peut-être le centre qui va se développer à nouveau. Il pense que la vallée va revivre et va continuer à vivre.
Ça va arriver parce qu'on a dit qu'ils vont renouveler l'hôpital. Et ça fait déjà 200 familles qui sont installées ici à l'heure actuelle, tandis qu'à la fin de l'Union soviétique, il en restait une quinzaine pour toute la vallée d'Aksaï. Donc ça renouvelle.
Reportage dans la vallée d'Aksaï au sud du Kyrgyzstan, une vallée qui se repeuple, passer de 15 à 200 familles, c'est pas rien quand même. Pourquoi est-ce que les gens reviennent?
Effectivement, on voit le retour des familles à Aksaï, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que autant à la fin de l'URSS, au moment de l'indépendance, l'élevage et le métier de berger en général a vraiment été déconsidéré. Les gens sont partis vers la ville, vers Bichkek, pour trouver un emploi comme commerçant, sur le bazar, etc. Et de l'emploi, il n'y en avait pas. Donc ils ont fini par revenir vers les villages, revenir vers les campagnes et les montagnes et reprendre une activité d'élevage. Et comme Aksaï est le lieu symbolique de l'élevage pour le Kyrgyzstan, ils sont aussi revenus à Aksaï.
Et l'avenir de ces gens passe toujours par l'élevage?
Oui, la plupart des familles qui reviennent, en effet, exercent le métier de berger. Et on commence à avoir des projets qui se montrent de relancer une activité industrielle basée sur la production de lait de yak. Un industriel français qui travaille au Kyrgyzstan depuis plusieurs années, qui connaît bien le pays, a eu l'idée de créer une fromagerie dans les années qui viennent pour utiliser ce lait de yak qui, pour l'instant, est seulement utilisé par les familles, mais qui n'est pas du tout transformé et exporté.
Mmh. Un fromage qui est justement pour être exporté vers l'extérieur ou bien qui resterait à l'intérieur du pays.
Le défi, c'est de faire prendre aux Kirghizes le goût du fromage, de leur faire aimer le fromage de yak, ce qui n'est pas évident. Ils ne mangent pas de fromage. Les seules choses qu'ils font à partir de lait, c'est la crème fraîche, le beurre et puis du yaourt, qui font des petites boules de yaourt séchées, qui s'apparentent peut-être un peu plus à du fromage. Mais ils n'ont pas du tout cette culture du fromage, parce que faire du fromage, ça prend une usine, ça prend du temps, et qu'en effet, dans la culture nomade, je pense que ce n'était pas quelque chose qui était possible, qui n'est pas dans l'instantanéité de la vie nomade. Ne çirkinay iyi yayıldın salgın iyi geçtiri gömürdün gitti çirkinay iyi yayıldın salgın iyi geçtiri.
Les sonorités d'Asie centrale choisies par notre réalisateur, Monsieur T. Vous écoutez la première. Nous sommes au Kyrgyzstan toute cette semaine et avec nous, maintenant jusqu'à 14h, le plaisir d'accueillir en direct par téléphone de Grenoble, Joanne Pabion. Bonjour. Vous êtes doctorante en anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez passé 6 mois cette année entre mars et fin août au Kyrgyzstan pour préparer une thèse de doctorat sur l'écotourisme. Vous n'êtes pas allé dans la vallée d'Aksaï, mais vous avez pu écouter le reportage de Camille et de Mathilde sur notre site dromadaire.rsr.ch. Vous avez reconnu quand même des sons, des paysages du pays que vous avez traversé, dans lequel vous avez vécu durant 6 mois.
Oui, tout à fait. J'ai ma première réaction à ce reportage, c'est effectivement la joie d'être plongée de nouveau dans ce pays auquel je suis très attachée. Et je trouve que le reportage est bien mené et qu'on suit vraiment Mathilde Guanec et Camille Manière dans leur découverte de cette vallée et dans les rencontres qu'ils y font. Et moi, donc, je connais pas cette vallée, mais effectivement, je retrouve une ambiance, une atmosphère que j'ai retrouvée, à laquelle j'ai pu avoir accès à son col, puisque j'ai fait effectivement essentiellement mon terrain à son col, qui est un lac d'altitude à 3000 mètres. À 5 heures de Bishkek, la capitale.
De quelle direction? Au sud?
Au sud, pardon, oui.
Mm-hmm. Donc un peu dans la direction de la vallée d'Aksaï.
Oui, mais beaucoup moins loin. En fait, c'est au centre du pays.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie d'aller étudier dans ce pays, au Kirghizistan?
Alors en fait, je me suis tournée vers le Kirghizistan un peu par hasard parce que je travaillais sur le tourisme d'aventure au départ, donc un tourisme de trekking, une randonnée itinérante, et je cherchais pour cela à être accompagnatrice moyenne montagne pour avoir une observation participante et pouvoir étudier le tourisme d'aventure de l'intérieur. Et donc j'ai appelé tous les tours opérateurs français de l'aventure et Atalante m'a proposé de travailler au Kirghizistan en été 2005, pour l'été 2005. Donc je suis partie en 2004 faire un trekking, un repérage, et j'ai mené mon étude de DEA à cette occasion-là.
Vous connaissiez déjà le pays ?
Non, j'en avais jamais entendu parler. Non, mm-hmm. En fait, si, j'en avais entendu parler parce que mon directeur de thèse travaillait déjà là-bas, il est spécialiste du Niger, mais il travaillait là-bas depuis quelques années, donc j'avais effectivement entendu parler du pays, mais je connaissais pas plus que ça, non.
Mm-hmm.
Par contre, étant passionnée de montagne, j'ai été complètement séduite par le pays, et donc j'ai décidé de continuer en thèse là-bas.
Et donc, vous êtes en train de rédiger, de préparer une thèse consacrée à l'écotourisme. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'écotourisme est à la mode. On sait aussi que c'est un tourisme qui se veut respectueux, non seulement de l'environnement, mais aussi des modes de vie traditionnels, des organisations sociales. Enfin, c'est un tourisme où on essaie de ne pas trop toucher à là où on est, au pays où on est, aux organisations où on est. Et au fond, les premiers résultats de votre travail à vous au Kirghizistan, c'est que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'est-ce qui change avec l'écotourisme?
Alors, ce qui change avec l'écotourisme, c'est que y a plein de choses à la fois positives et plein de choses qui le sont moins, enfin qui sont même plutôt négatives du fait de l'introduction de ce tourisme-là. Donc ce qui change très concrètement, donc moi j'ai essayé de voir au niveau local, je me suis intéressée à un camp de yourtes monté toute pièce pour les touristes, donc toujours dans ce lac à 3000 mètres d'altitude. Et là j'ai essayé d'observer les modifications, tout d'abord les relations sociales établies dans ce campement qui ressemble beaucoup à un village et leurs modifications en fait. Et donc il y a de grosses modifications au niveau de la structure sociale par l'émergence de nouvelles élites d'une part et puis de nouveaux statuts parce que l'écotourisme amène automatiquement de nouveaux statuts, notamment en fait l'écotourisme au Kirghizistan a été lancé par une ONG suisse qui s'appelle Helvetas en 1997. Et elle a introduit un nouveau statut qui est être coordinateur. Et donc
un nouveau statut pour
concours. Un nouveau statut professionnel en fait.
Mm-hmm. Un nouveau métier.
Un nouveau métier, voilà, qui est être coordinateur de Shepherd's Life, c'est le premier projet, donc qui s'appelle la vie des nomades. Et donc être coordinateur, c'est en fait répartir de façon équitable les touristes dans les familles d'accueil, puisque c'est un réseau qui fonctionne avec des familles membres, puisque l'écotourisme doit participer à l'amélioration du bien-être des populations locales, et donc il se centre sur les populations locales, il essaie de développer le tourisme avec elles. Et donc voilà, il y a vraiment une lutte, par exemple, il y a une recherche de la part des familles pour être coordinateurs. Ils essaient beaucoup d'être coordinateurs. Ils recherchent ce statut-là, d'une part, et d'autre part, certains s'enrichissent beaucoup plus que d'autres. Et donc ça crée
des problèmes,
de réels conflits de concurrence, bien sûr.
Parce que ces gens-là ont un pouvoir, ces gens-là qui n'est pas le pouvoir traditionnel, j'imagine qu'on des clans ou des familles ou des villages. Ces gens-là ont de l'argent et comment ça se passe alors? Il y a des véritables conflits entre les personnes?
Oui, il y a de réels conflits, et ceux qui ont de l'argent ont des moyens d'influence. Et par exemple, cet été, il y a une femme donc sur ce campement qui s'appelle Nazira et qui est considérée comme l'élite par ses voisins. Et en fait, elle s'est énormément enrichie depuis 2004, quand elle s'est lancée dans le tourisme. Et là, cet été, elle avait par exemple toutes ses yourtes de retenue. Et elle a vu arriver des touristes supplémentaires. Donc elle est allée voir sa voisine en lui demandant de démonter une de ses yourtes et de la lui prêter. De la lui prêter à la Kirghize, c'est-à-dire sans contrepartie financière, pour 2 jours. Mmh. Donc cette voisine a accepté sans rien dire, en fait. Mais cette même voisine, voyant débarquer le lendemain 12 touristes, pour 6 jours, elle a été obligée de redemander sa yourte. Et Nazira l'a très mal pris, elle a été très vexée et elle lui a redonné sa yourte uniquement le soir pour que ces touristes puissent en profiter encore la journée. Et elle lui a reproché cette manière d'agir avec elle. Donc elle a vraiment beaucoup d'influence en fait sur les autres et les gens la craignent énormément.
Ça c'est les modifications sur les structures sociales. Quel autre type de modifications ce nouveau tourisme, ce tourisme vert qui essaie justement de ne rien changer à ce qui est vécu par les gens, par les populations là-bas. Qu'est-ce qui change d'autre ?
Il y a d'autres modifications, des transformations au niveau identitaire, en fait, et puis un risque de folklorisation, justement, puisqu'il y a des mises en scène de la part des locaux pour répondre aux attentes des touristes. Donc, par exemple, cette femme, toujours cette femme qui est considérée comme l'élite, quand elle n'a pas de touristes, elle est toujours habillée en jean, avec des tenues qu'on retrouve sur les femmes à Bishkek. Et en fait, quand des touristes arrivent, elle quitte son jean et elle réinvestit son rôle de femme de berger kirghize. Elle remet son foulard sur la tête et elle a vraiment très bien compris ce qu'attendent les touristes. Et elle sait complètement y répondre, en fait. Donc voilà, il y a vraiment une mise en scène de la femme de berger nomade, quoi, de berger kirghize.
Et ça, vous avez pu en parler avec elle ? Comment est-ce qu'elle le vit ? C'est naturel ou bien au contraire, c'est un peu c'est forcé ?
Ah non, c'est forcé. Je pense qu'elle dit qu'elle sait que si c'est elle qui accueille le plus de touristes aujourd'hui à son col, c'est parce qu'elle a toujours de bons retours par rapport à ses touristes, parce qu'elle sait comment accueillir, elle me disait lors d'un entretien, je sais quoi cuisiner aux Anglais, quoi proposer aux Français, quoi reprocher aux Kirghizes. Mm-hmm. Elle dit, je sais comment tenir mes yourtes, compter mon argent, etc. Effectivement, elle a vraiment très bien compris comment elle devait se tenir pour répondre aux attentes des touristes.
Des attentes différentes et qui, en même temps, chaque fois, quand elles sont comblées, ces touristes disent, ben voilà, c'était le Kirghizistan authentique.
Voilà, mm-hmm. Exactement.
Vous dites qu'elle le sait, mais elle le sait comment elle l'a appris. Comment ça s'est passé, cette transmission Comment est-ce que les gens là-bas connaissent nos désirs ou les désirs des gens qui partent en trek dans ce pays?
Alors déjà, de deux façons, parce que l'ONG suisse Helvetas avait organisé au départ des séminaires, des séminaires pour les personnes membres, donc pour les familles qui accueillent les touristes, avec différents thèmes comme la communication, la psychologie et la communication, l'hospitalité kirghize, la cuisine végétarienne, etc. Comment tenir ses yourtes, gérer son argent. Et depuis 2004, il y a aussi un manuel qui a été écrit et publié pour les familles d'accueil, avec les mêmes thèmes, en fait. Enfin, ils ont repris les thèmes des conférences, des séminaires. Et donc, ces familles-là sont aussi formées par ce biais-là, quoi. Et puis après, je pense qu'il y a aussi toute une construction par rapport aux touristes qu'elle accueille. Elle arrive à comprendre aussi comment, ce qu'ils attendent, quoi. Et puis, il y a différentes anecdotes également. La voisine de Nazira, par exemple, a eu un problème l'année dernière parce qu'elle avait des lits de camp dans sa yourte pour ses touristes, dont elle était très, très fière de pouvoir leur offrir des lits de camp. Et en fait, les touristes l'ont très mal accepté, les lits de camp.
Parce que c'était pas traditionnel.
Et voilà, parce que c'était pas traditionnel. Et donc, ils ont écrit à Shepherd's Life en disant qu'ils avaient choisi cette firme touristique parce que c'était la vie des bergers et qu'ils voulaient vraiment vivre comme les bergers et qu'ils avaient très mal supporté d'être accueillis sur des lits de camp. Mmh. Donc voilà, ça, Nazira, je pense qu'a retenu aussi la leçon et qu'elle elle sait exactement ce qu'il faut faire pour correspondre aux attentes des touristes.
Quels sont, selon vous, Joanne Pabion, je rappelle que vous êtes en train de préparer un doctorat en anthropologie sociale à Paris sur l'écotourisme au Kyrgyzstan. Quels sont, selon vous, les risques à long terme de ce genre de tourisme? Les avantages, on les voit bien parce que c'est un pays pauvre, c'est un pays paysan, c'est un pays qui a très peu de ressources, c'est un pays qui peut vivre du tourisme. Et tant mieux, au fond, si les gens peuvent vivre du tourisme. Donc les avantages, on les voit bien. Quels sont les risques, selon vous?
Les risques, c'est justement qu'il y ait une folklorisation et une mise en scène de l'identité, en fait, parce que le tourisme définit une identité figée, en fait, du Kirghize, avec notamment un Kirghize pour le touriste, c'est celui qui est avec son cheval et son kalpak, le chapeau traditionnel en feutre, et sa yourte. Et alors que la culture est vivante et que les choses évoluent et que ça se transforme. Et donc je pense qu'il y a effectivement le tourisme, c'est très important pour les personnes qui vivent là-bas, et parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, un moyen d'avoir de l'emploi, et du coup ces personnes risquent de justement jouer aux nomades kirghizes, et pour répondre aux attentes des touristes, quoi.
Quel tourisme faut-il alors? Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il faut ou il faut pas du tourisme, mais c'est quel tourisme? Là, on a l'impression, justement, par rapport à un tourisme de masse, que ce tourisme vert essaye de respecter l'environnement au sens large de ces populations. Quel tourisme faut-il, selon vous?
Je pense que c'est le meilleur des tourismes. C'est-à-dire que c'est quand même un tourisme
ou c'est le moins pire,
qui profite. Oui, voilà. Je pense que c'est un tourisme qui profite aux populations locales beaucoup plus qu'un tourisme sportif comme le tourisme d'aventure, par exemple, qui profite essentiellement aux tours opérateurs de Bishkek. Donc c'est le meilleur des tourismes qui puissent être développés là-bas, mais par contre automatiquement ça modifiera certaines choses, et ça modifie déjà la structure sociale et puis les attentes des personnes sur place, quoi, des Kirghizes.
Et vous, quand vous êtes allé là-bas, est-ce que vous étiez perçue autrement que comme une touriste? Parce que c'est une question de regard aussi,
oui,
que les gens ont sur les étrangers. Dans des pays comme ceux-là, on est souvent, quand on est occidental, perçu un peu comme des porte-monnaies ambulants.
Oui, bien sûr. Mais je trouve pas qu'au Kirghizstan, ce soit encore le cas. Hein. C'est encore là, je donne un aperçu du coup d'un tourisme qui modifie énormément sur place. Qui modifie beaucoup de choses, mais quand même c'est encore un pays très préservé du tourisme par exemple il y a vraiment très peu de personnes qui demandent de l'argent, on n'est pas harcelé du tout, enfin c'est vraiment pas comme ça que ça se passe pour le moment, et moi j'ai été bien accueillie. Par contre, ça n'a pas toujours été facile de garder mon statut d'anthropologue parce que justement j'étais dans un milieu où il y avait que des touristes, donc automatiquement les familles qui m'accueillaient me prenaient aussi comme une touriste, ce qui était intéressant aussi de voir.
On arrive au terme de cet entretien, Joanne Pabion. À quoi faut-il faire attention quand on est touriste et qu'on souhaite effectivement respecter au mieux les gens, l'environnement au Kirghizistan?
Au Kirghizistan, comment se tenir? Essayer de voir que la société évolue et que les gens sur place, c'est évident que pour eux c'est beaucoup plus simple d'utiliser une voiture pour se rendre au village que de continuer à prendre uniquement leurs chevaux, par exemple. Et puis prendre en compte qu'il y a une évolution chez eux aussi, et que leur empêcher la modernité, c'est violent pour eux, quoi.
Et qu'on peut bien dormir sur les lits de camp.
Et que, bien sûr.
Merci beaucoup, Joanne Fabian, d'avoir été quelques minutes avec vous. Vous allez retourner au Kyrgyzstan ?
J'espère, oui.
Ouais. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Külüne gökman çıkışırı yitakımız. Bir geçti göle kıda gerge yay bakımız. Gökman çıkışırı yitakımız. Alganı gana bir ayak şey ay bir bolsun. Oy ya. Kuldağı yayda bir ayak el ay üretir. Oy ya. Alganı gana bir ayak el ay bir bolsun ya. Kudağı altından açat bağı çan bulur. Oy. Oy. Yolu gana bir acak şey ay bir borsa. Oy. Kudağı günde bir akıl ay üretir. Gümüşten açat bağı çan bulur. Alıp bir kana geldin ey beş borsak. Kudağı gere giden ötken yok gelin derge. Hayi cetken yok.
Voilà, les voix du Kyrgyzstan, on les entendra encore demain avec le dernier feuillet du carnet de route de Mathilde Gohanek et de Camille Magna. D'ici là, on vous souhaite un excellent après-midi avec, juste après les informations, Histoire vivante de Jean Leclerc, quatrième épisode aujourd'hui consacré au Watergate. Mathilde Gohanek, Camille Maillard, Cyril Desprats, on vous souhaite un excellent après-midi. Il va être 19h à son cool, 15h sur la première.